Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Théo, mollo là sur le vin de Philippe. Bah troisième verre là.
C'est hyper bon et je me rappelais pas des 2017, donc je suis très content de regoûter.
Aitor, toi t'aimes beaucoup ce vin aussi, non?
Mais tu avais vraiment goûté ou...
Bah, je pense que j'avais goûté.
Je suis pas persuadé moi.
T'es sûr? Mmh.
C'est-à-dire que tu ne goûtes pas les vins que tu mets à ta carte.
Non, mais les 17...
Non, mais c'est parce que 17, ça a été mis en bouteille un peu plus tard et je crois que...
On est passé à travers.
Voilà. Mais ah il en reste.
L'essentiel, c'est que c'est très bon quand même, non?
Ouais.
Avant tout, c'est ça qui compte.
C'est très très bon.
C'est très très bon. Mm. Bon, bah, il est 13h, on passe à table?
Ouais. Mm.
Comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique.
Mange ma fille.
Avec du bon.
C'est chaud.
Présenté par Mina Sundiram et Elvira Masson.
Show quatrième. On est ravis de recevoir aujourd'hui Théo Pouria et Philippe Formentin. Salut Théo.
Salut Mina.
Allô Philippe.
Salut, salut.
Bon, on est très contente que vous soyez là. Et quand je dis on, cette fois-ci ce n'est pas juste Elvira et moi. On a décidé de faire ça à trois. Avec Aitor Alfonso, notre monsieur vin. Or, qui dit Aitor dit... Qui à proximité.
Et pour cause, ce week-end, il y a le salon La Gouléance, une réunion de vignerons ici à Ground Control, organisée par Steve Gotkowski. Alors c'est une sorte de symposium de vignerons qui cherchent des noises au glufosate. Viens boire un coup, Nicolas Hulot. Des vignerons qui ne dopent pas leur jaja aux stéroïdes industriels, des flacons non alignés.
Philippe, tu es vigneron donc, tu es établi dans le Languedoc. Depuis 2011, si je ne dis pas de bêtises, tes vins s'appellent Opidaki. Ça veut dire l'opium d'ici en Occitan. C'est une drogue ton vin?
On espère que non, mais on essaie de faire en sorte que ce soit bon.
Moi je suis un peu addict. Ouais. Une bonne drogue, une drogue vertueuse, c'est ça?
C'est ça.
Théo, tu connais bien les vins nature en général et tu connais très bien les vins de Philippe. Tu les sers dans tes restaurants. Faut-il encore les nommer Septime, Clamato, la cave Septime? Vous connaissez bien tous les deux?
On se connaît, on a dégusté ensemble quelques fois, mais je suis jamais venu te voir.
Mais on se croise souvent autour d'un verre de vin en fait.
Ouais.
Et toi, Philippe, tu as déjà déjeuné ou dîné dans
j'ai eu cette chance, ouais.
Théo. Oui.
Oui. Déjeuner et dîner.
La chance.
C'était quand? C'était l'an dernier, non?
Il y a 2 ans, je pense.
2 ans. Ouais. On s'est vachement amélioré depuis. Hein.
Et je suis venu hier, mais il n'y avait pas de place.
Bon. T'as pas tes entrées, donc. Bon. Avant de commencer, est-ce qu'on peut d'entrée poser une définition du vin nature?
C'est compliqué ça.
Bon, je vais essayer un peu de résumer l'histoire. Quoi. En France, il existe une association des vins naturels, AVN. Selon l'AVN, un vin est naturel s'il est bio, la biodynamie est bienvenue, et vierge ou presque vierge de tout additif. Pas d'intrants chimiques, pas de produits qui dévitalisent le vin, donc les sulfites en tête. En fait, c'est plutôt simple comme bonjour, non? Où est le problème?
Bah,
si tant est qu'il y a un problème. Ouais.
Bah, pas, quand tout se passe bien, il n'y a pas de problème, mais parfois ça peut arriver qu'il y ait des problèmes.
Il y a toujours des problèmes, non?
Plus ou moins.
Ouais.
Vous parlez des problèmes de quoi? De confection du vin, de stabilité, etc. C'est que quand vous dites les problèmes, vous identifiez
non,
quoi?
Le vrai problème, c'est que personne n'a jamais été d'accord pour
pour
s'accorder sur une définition. Donc après, je crois qu'il faut avancer. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, droit dans ses bottes. Et puis on aime ou on n'aime pas. Mais voilà, c'est au moins on fait avancer le truc.
Et après tout, est-ce que la chose précède pas le mot? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il vaut pas mieux faire pour définir plus tard? Faire sans nécessairement définir strictement.
De toute façon, c'est ce qu'on fait. Et puis après, des fois, on prévoit que les choses vont se dérouler comme ci ou comme ça. Et puis, c'est pas toujours comme ça que ça se passe.
Mais vin nature, c'est une expression qui vous va ou elle vous va pas, cette expression-là?
Oh, c'est mieux que vin chimique. Hein.
Mais d'ailleurs, parce que moi, j'ai un problème. Quand je commande un vin nature dans un bar, on me regarde avec des yeux... Vraiment, on me regarde comme si j'avais demandé un truc qui n'existait pas. Et que je dis, bon, bah, des vins naturels. Ah oui, des vins naturels, on a. Mais nature ou naturel, c'est la même chose, je veux dire.
Bah, ça dépend de l'endroit où tu es, c'est un peu compliqué. Alors là, déjà, on parle de quand tu sors à Paris.
Donc, ouais, okay. Parce que je ne quitte jamais Paris.
Non, mais voilà. Donc, déjà, non, on va parler de la niche on va parler de la niche parisienne. Et suivant l'endroit où tu es, vin bio, vin nature, vin naturel, tout dépend. Et après, on peut rentrer un peu dans le détail. Aitor, tu vas nous éclaircir, mais soufre, pas soufre. Chez Monoprix, on trouve des cuvées nature sans soufre aujourd'hui, sauf qu'elles sont pasteurisées et qu'il n'y a plus rien dans le vin, tout est mort. Donc c'est un sombre bordel.
Ouais. Il n'y a aucune loi.
C'est un délicieux petit bordel.
Non, mais super.
Oui, non, mais c'est très bien.
Non, mais voilà. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas oublier que chacun peut avoir ses principes sur les vins, sur le véganisme, sur l'alimentation en général. Mais en gros, ce qui prime, c'est le goût et le discours qui peut après être en place derrière. Mais le goût prime envers et contre tout.
D'accord. Bon, on a l'habitude de proposer des quiz un peu piégeux à nos invités. Et celui-là est sur le thème « Tu préfères ».
Attention, hein, petite blague. Plutôt tariquée ou plutôt villageoise ?
Villageoise.
Ouais, villageoise.
Non.
Pourquoi ?
Carrément.
C'est pas vrai.
Mais 10 fois villageoise.
Attendez, vous pouvez juste, pour les néophytes du vin...
Si t'es néophyte, tu connais la villageoise.
Ouais.
Non, vraiment, non, villageoise, c'est moins pire que tariquée.
Ouais, pour le packaging, déjà, je trouve que c'est plus assumé. C'est encore dans une bouteille en plastique ou pas ?
Ah, ça, je ne sais pas.
Ouais, bah, ça fait longtemps hein, que je n'ai pas goûté. Hein.
C'est un vin de supermarché, quoi.
Ouais.
Ouais, mais la villageoise, à la base, c'est un vin facile. C'est un vin de soif, un peu, c'est un vin de tous les jours.
Et c'est pas un vin mal fait.
C'est un peu aussi ce qu'on essaye de faire quand
c'est
même.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui recoupe ce que vous essayez de faire dans l'esprit de certains vins naturels.
C'est ça.
Revenir à un truc buvable et joyeux, quoi.
Mm-hmm. Ouais, c'est un vin joyeux. Propre.
D'accord, je pensais pas que ce matin on allait dire que le village ouest était un vin joyeux, mais je suis ravi de l'entendre.
Non, plutôt le vin naturel, c'est-à-dire que c'est une espèce de paradoxe. Et ouais, c'est ça, le village ouest n'est pas tellement propre non plus. Quoi.
En même temps, la question n'était pas facile. Hein. T'as lancé le village ouest.
Bah, c'était un peu piège.
Non, mais Tariqué, il faut quand même dire ce que c'est. C'est quand même absolument dégueulasse. Ça a été le plus grand braquage de toutes les bars et brasseries à Paris, à Paris et ailleurs. Je sais pas, c'est combien de centaines d'hectares
Je ne sais pas.
Je sais même pas.
Mais
c'est
pratiquement imbuvable en plus. Hein.
Mais c'est pas possible. C'est pas possible.
Ça doit être buvable quand même, un minimum, parce qu'il y a plein de gens qui en boivent.
Ouais, mais plein de gens mangent de la merde et boivent de la merde. Et ça,
c'est pas faux.
Alors, deuxième question, du coup, un peu plus technique. Vous êtes plutôt volatile ou réduction ?
Volatile.
Attendez, plutôt volatile.
Non, mais là, vous m'avez perdu, moi.
Volatile, ça veut dire quoi, réduction ?
C'est-à-dire que disons que pour la ligne officielle du vin, c'est considéré comme des défauts ou des déviances du vin, hein, c'est ça ?
Oui, c'est considéré comme ça, mais ça ne l'est pas forcément. La volatile, ça peut être très utile dans un vin, ça peut rééquilibrer un vin, ça amène de l'acidité.
Quand tu dis la volatile, ça veut dire quoi concrètement ? C'est quelque chose qui est très courant en
bouche ? L'acidité volatile, c'est l'acide du vinaigre.
D'accord. Ah.
Donc, il peut y en avoir un petit peu. Des fois, c'est très bien intégré dans le vin, ça sert le vin, et des fois, ça le dessert.
D'accord. Et réduction ?
La réduction, c'est une odeur un peu désagréable, d'œuf pourri, quand c'est très violent.
Ah, rien à voir avec le goût de souris ?
Ah non.
Ça, c'est encore autre chose.
Et c'est quoi, souris ?
Ben, on ne sait
pas. C'est un peu rance, quoi, non ?
Ben, la souris, c'est encore un défaut dans le vin, si on peut parler de défaut. Mais c'est cette finale un peu foie gras écrasé qu'il peut y avoir en rétro-olfaction à la fin de la bouche.
Un peu canard et un peu beurre rance.
Ouais, exactement.
Ouais. Je vois très bien. Ça m'arrive souvent. Je suis très souvent dessus.
Et la réduction, par ailleurs, peut s'estomper parfois dans certains vins.
Ouais, les grands vins,
quand
tu bois des Noëls de Montbenot, de Richard Leroy, un peu trop jeune, c'est l'exemple, la définition même de la réduction. Sauf qu'il y a différents types de réductions, et ces réductions qu'on dit un peu minérales sont aussi garantes de l'évolution du vin dans le temps et leur tenue, quoi, leur colonne vertébrale. Donc,
c'est la notion de défaut qui est en fait très relative.
Complètement subjective.
Et c'est une notion de défaut qui est plus propre au vin nature qu'à des vins conventionnels ou pas du tout ?
C'est une affaire de normes, non ? La norme officielle édicte des sentences selon lesquelles c'est des défauts et qu'il faut les éviter et qu'il faut tous les moyens doivent être mis en œuvre pour les éviter.
Il y a une question de normes, je pense, mais c'est aussi le fait que les vins un peu techniques, on fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas ce défaut, justement. Donc c'est pour ça qu'on les a moins souvent, ces défauts, sur les vins techniques.
Et technique veut dire chimique, parfois ?
Technique veut dire souvent chimique, ouais.
Il y a un aspect commercial un peu dans tout ça. C'est au-delà. Enfin, je me projette 20 ans en arrière ou 15 ans en arrière. Faire du vin nature, c'est un peu comme les gens. C'est accepter qu'il y a des défauts, accepter que ça goûte pas toujours pareil, accepter que ce soit un peu des fois un peu en vrac, des fois extraordinaire. On préfère, ça dépend vraiment encore une fois des gens, mais pour ma part, je préfère accepter une part de vin vivant un peu plutôt qu'un vin mort et éteint dans le verre qui goûte toujours pareil et qui est moins expressif.
Plein de conneries. Bon, troisième question. Si, attention, si vous deviez conseiller un Bordeaux Grand Cru.
Nous on a du à Saint-Émilion, c'est le château Mellet de Michel Favard historiquement, qui fait des vins sublimes. Donc il y a c'est voilà, comme c'est la démonstration que Merlot, Cabernet peuvent goûter somptueusement bien à Saint-Émilion.
Est-ce que je pensais de piéger.
Pourquoi?
Avec Bordeaux Grand Cru. Je pensais que c'était pas du tout.
Non, alors c'est en Saint-Émilion. Alors c'est en Saint-Émilion Grand Cru, ouais. Bordeaux Grand Cru. Il faudrait que je bosse un peu. Il y a Christophe Pouillot qui fait des trucs formidables, pareil à Libourne, juste à côté. Non, c'est une connerie ça. Non, faut arrêter. Bordeaux, je veux dire, c'est pas par. Non mais alors voilà, on a oublié quoi. Bordeaux, c'est pas par hasard que tout le monde a été soute là-bas et que. Enfin, Philippe, je parle sous terre.
Moi non, mais bon.
Non, pas tout le monde, mais pour diverses raisons, mais. Les terroirs, je parle pas des sols aujourd'hui qui ont été complètement ravagés, mais les terroirs sont fabuleux et il y a des expressions de vin qui sont merveilleuses.
Tu te rends compte, Théo, que ta parole là était une parole qui est pas très partagée. J'entends pas grand monde dans le milieu professionnel de la restauration et du vin. J'entends pas grand monde qui a envie en 2018 de dire du bien de Bordeaux.
Ouais, mais
c'est un peu en train de rechanger de nouveau, mais t'as une parole qui est assez rare sur le sujet.
Non.
Hater, non ?
Je pense que... Non, c'est ouais, bien sûr. Et c'est considéré parfois à tort et bêtement comme le grand Satan, quoi, le grand ennemi du vin naturel. Et effectivement, hein, des châteaux Le Puy, par exemple, qui travaillent aussi très propre, il y a des choses à sauver, évidemment. Après, bon, c'est aussi un rapport de force politique. Quasiment, de l'industrie dominante, d'un modèle bordelais contre lequel aussi il faut lutter. Mais tous les vignerons du Bordelais ne sont pas des ennemis déclarés de la chose.
Il y a une question de tarif aussi. Les grands crus de Bordeaux, ça coûte quand même très cher. Et...
Ah ben, non, mais je sais pas. Oui, on parle de tous les autres là. C'est un scandale. Non, mais voilà, tout ça, c'est évidemment. Et puis la chimie. Enfin bon, si on doit parler de la chimie après.
On a l'occasion d'en goûter.
Ouais, non, mais c'est un scandale. Mais il y a tellement de scandales. C'est un produit qui est quand même le vin qui est propice à beaucoup de scandales, étouffé. Donc c'est
parce que le seul produit non alimentaire qui n'a pas à indiquer ses composantes. C'est-à-dire, t'achètes une tranche de jambon au supermarché, t'as une liste de 50 ingrédients. Et sur le vin, rien ou presque.
Et ça, exactement, c'est le fond du problème, en fait. C'est le vrai fond du problème qui est lié à quoi? Qui est lié au lobby viticole, tout simplement. Et basta.
Peut-être, sans doute.
On va plutôt parler de choses réjouissantes et on va tout simplement déboucher des bouteilles. Aitor, t'as bossé assez dur pour nous aujourd'hui. Tu vas nous faire goûter des vins et ça sera le meilleur moyen de mettre en pratique ce qu'on est en train de se dire.
Et ce sont des vins que tu as trouvés
évidemment au salon.
Sur place.
Qui sont des vins d'exposants du salon. Alors on va commencer par Gérard Marula, du domaine du même nom en Loire, à Chinon exactement. Alors moi personnellement j'ai découvert ces vins chez Hervé à l'étiquette sur l'île Saint-Louis. Une petite cave à vin. Lui, Hervé, c'est un maruliste fiefé qui relève le défi de vendre autre chose que du Bordeaux Grand Cru aux touristes de Notre-Dame. Bon, pour moi, c'est bu et approuvé. Je trouve que c'est un nez de cerise, c'est délicat, c'est un canon. On va en servir quelques verres.
Ouais. C'est Elvira qui... Tu fais le service ? T'es un peu tout...
Philippe, Théo, vous en
tu
pensez
fais
quoi,
plusieurs,
sincèrement ?
Petit à la fois. Au nez, Philippe.
C'est très aromatique. Déjà, il y a un côté un peu cuir. On sent un fruit qui est quand même bien mûr.
Tu connais ce vin ?
Ouais.
Ce domaine ?
Ouais.
Ah oui, tu connais bien. D'accord. Tu connais tous les vignerons qui sont
là
aujourd'hui ?
Oui, à force, on fait des salons un peu chaque année ensemble. Et
oui, donc c'est des potes.
J'en connais une grande partie. Ouais.
D'accord. Et toi, Théo ?
Ouais, on a. Mais j'ai essayé de trouver un truc intéressant à dire de la dernière fois qu'on s'est rencontré avec Gérard Marula, mais je me rappelle pas où c'était. Et c'était là-bas, c'était chez lui, c'était aux alentours de Chinon. Mais je sais plus pourquoi on s'est vu dans une cave sombre et obscure un soir tard. Et on a bu ses vins et je me rappelle que j'avais beaucoup aimé. Je sais que c'était quand on était allé voir Jérôme Lenoir à Chinon avec des copains et j'aime beaucoup. Moi, c'est Cabernet, hein, je pense qu'on goûte. Hein, il y a Cabernet France.
Ouais. Cabernet France, c'est sa cam. Hein.
Ouais, c'est 2016. Et puis là, on est quoi là ? On est le 24 novembre et Ben, c'est la période des cabernets francs. Moi, j'adore là, l'automne, là, le moment où le froid commence à s'installer et que les cabernets redescendent un peu en température et qu'on a envie des premiers rouges un peu nerveux, là, comme ça, avec du... le fruit de l'été encore un peu, mais un peu plus nerveux, un peu plus séveux, quoi. C'est vraiment la période où je bois des cabernets, moi. J'adore.
C'est très joli, ça.
Pour dire deux mots sur Marulas, c'est un vrai paysan vigneron, une vraie gueule d'atmosphère, hein, pour aller le voir au salon. Sa cam, comme on disait, c'est le Cabernet Franc. Oui, c'est ce cépage un peu rusto, un peu sauvageon, qui donne des vins fins et sensibles à qui sait l'amadouer. Donc ça donne ça, quoi, des vins délicats, expressionnistes. Et Marulas, c'est aussi un mec qui enfonce le glou, pourrait-on dire, avec certains assemblages de gros lots. Vous savez, ce cépage jackpot. Combien ça coûte? Entre 16 et 22 euros pour ses meilleures bouteilles, prix caviste.
Putain, c'est hyper cher. Non, je déconne.
On va dire ça à Gérard tout à l'heure. Okay. Non, attention, il fait 1m98.
Ouais, c'est pour ça que je dis ça.
Tu l'as à ta carte, celui-ci? Non.
Non, les vins de Gérard, j'ai jamais rentré à la carte. Mais après, on peut pas. Enfin, c'est un milieu qui ne fait que s'étendre depuis 20 ans, et c'est tant mieux. Et qu'ils soient d'accord ou pas d'accord pour se mettre sur une définition, en tout cas, on ne peut pas avoir tout le monde à la carte.
Oui, je comprends.
On ne peut pas bosser avec tout le monde, donc on aimerait, mais ce n'est pas possible.
Tu sais que ça... Bon, on passe au deuxième vin.
Alors, le deuxième vigneron, c'est deux vignerons pour le prix d'un.
Je l'ai servi, il est devant toi, Théo, juste là, derrière la bouteille de Marula. Ouais. Mina, tu l'as aussi.
Oui, j'ai le mien.
Philippe aussi.
C'est Agnès et Jacques Carroget du domaine de la Ponnerie, en Loire-Atlantique, en allant vers Nantes, sur la route de la soif ligérienne, aux confins de Longjou. On tombe dans leur cuve à potions magiques. Alors, c'est des activistes du bio, hein. Ils épilent pas leur sol à coups de produits chimiques. Leurs vignes croissent sur un parterre de salutaires, de bleuets, de géraniums, de trèfles, pour que la vigne puisse brouter à son aise.
Et pourquoi les bleuets, pourquoi les géraniums, pourquoi les trèfles, ça sert à quoi en fait?
Alors, tout ça crée des petits microcosmes bienveillants. Les trèfles, par exemple, permettent de ramener de l'azote dans les vignes. Et on sait que je parle sous ton contrôle, Philippe, c'est l'un des soucis, l'absence d'azote, la carence d'azote dans les vins naturels. Je crois que c'est un moyen non chimique
dans les vins naturels et les autres. C'est vrai que l'azote, on parle d'azote assimilable pour l'azote qui est contenu dans le raisin. Et il en faut quand même un minimum pour que la fermentation se déroule bien. Donc si on peut faire en sorte que tout ça soit...
Ouais, on peut... Non, juste, il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même. C'est qu'on tous ces mecs-là, là, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec comment ils bossent, on a toujours l'impression que c'est une bande de hippies qui bossent pas et qui laissent les vignes sauvages en disant « je fais du vin nature et je laisse pousser l'herbe entre les rangs et je laisse la nature faire ». Il y en a quelques-uns, mais
Philippe, toi, t'as les cheveux plutôt courts, t'es plutôt propre sur toi.
Je savais que j'avais une émission de radio, c'est pour ça.
Et puis on est habillés pareil, en plus, j'avais pas vu, hein, on est tous habillés pareil.
Ouais, c'est vrai, quel ennui. Mais quel ennui.
Non, mais c'est surtout des mecs qui des nanas et des dames, oui, des vignerons et des vignerons qui travaillent hyper dur. Parce que c'est vachement plus simple de balancer du désherbant.
Bien sûr.
C'est vachement plus simple de faire tout à la machine. Évidemment que c'est beaucoup plus de travail que d'aller faire ce qu'ils font, donc faut quand même le rappeler ça, quoi. Et pas seulement de se convertir en agriculture biologique, mais de faire du vin, allez, on va raccourcir, du vin naturel, quoi, en gros, hein, pour mettre tout le monde un peu dans le même...
Pas de sulfite, on peut juste avoir une précision, enfin, sur d'abord soufre et sulfite, c'est la même chose, on est d'accord?
Non.
Ah, ok.
Ah, ça commence bien.
Le soufre, c'est ce qu'on utilise dans la vigne, en fait, pour lutter essentiellement contre l'oïdium.
Contre eux.
L'oïdium, qui est une des maladies particulièrement chez nous, à ne pas confondre avec l'imodium, attention. et après, les sulfites, c'est quelque chose qui vient de la pétrochimie maintenant, parce que c'est des bisulfites de potassium. Et c'est pas très clean.
Ça sert à quoi, les sulfites?
C'est un antioxydant, un conservateur. Ça tue la vie, en fait. Ça tue
c'est
les
antibactériens. C'est pour assurer une production constante et un vin complètement homogène. Qui
une conservation longue.
C'est pour figer, à un moment donné, le vin. Voilà.
Exactement, ouais. C'est pour figer la photo à un moment, que ce soit pour l'export, que ce soit pour la vente, pour le commerce, pour avoir un vin qui est clean et qui ne se barre pas en couille.
Après, il y a des gens qui mettent un tout petit peu de sulfite, mais vraiment des doses qui sont... 10-20 fois inférieur aux doses autorisées, et ça peut avoir un intérêt. Après, moi, j'ai pris le parti de ne pas en mettre parce que ça me plaît de faire des vins sans sulfite, de plus rien mettre dans le vin. Mais après, je comprends complètement que des gens mettent un tout petit peu de sulfite pour
Théo, à la carte, tu as des vins qui contiennent un petit peu de sulfite?
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Ouais, ouais, bah non. Alors, encore une fois, c'est nous, après, pour nous, c'est une autre paire de manches. Travailler des vins sans soufre, sans sulfite, c'est... C'est compliqué parce que c'est des tenues à l'air un petit peu plus difficiles, c'est des vins moins stabilisés, mais faut pas que ce soit péjoratif, hein, faut que ce soit juste un petit peu plus droit, quoi, un petit peu plus clean.
Parce que quoi, sinon le client peut être un peu dérouté, parce que...
Parce que très concrètement, on parlait de la souris tout à l'heure, moins un vin qui met 2 ans à se mettre en place parce qu'il y a une grosse ratasse en fin de bouche, c'est-à-dire une grosse souris, un gros défaut dans le vin qui gâche les arômes, moi ça me gâche un peu mon plaisir. Donc je préfère que le mec, pour sauver sa vendange ou pour sauver la cuve ou pour sauver, mettre sulfite à 1 gramme, ce qui sera, alors pas, attention, pas indétectable, mais qui te filera pas pour autant, enfin pour ma part, un mal au crâne, etc. Voilà, moi je préfère que le mec mette 1 gramme et sulfite légèrement et qu'on n'en parle pas, parce que pour moi en fait le soufre c'est un faux débat.
Attends, mais, pardon, je te coupe. Tu veux dire que les sulfites c'est la cause de la gueule de bois?
Dans le tariqué, ouais.
Dans la villageoise, ça va, on est bien.
C'est-à-dire que là on est en train de parler, alors aujourd'hui la Gouléance, il y a particulièrement, hein, Philippe tu me diras, j'ai pas fait le tour de toutes les tables, mais beaucoup de sans soufre.
Je pense, j'ai pas fait le tour non plus.
Ouais, beaucoup de sans soufre.
Sans donc soufre c'est... et sans sulfite.
Ouais.
Les deux.
Non, mais enfin, il dit sans dégage... soufre.
Quand je dis sans sulfite. Ouais, c'est sans sulfite. Je me fais reprendre, merde.
Sur le langage.
Parce que non. À Paris et Languedoc, apparemment, c'est deux visions
partout,
différentes.
La balle au centre.
Non, mais. Qu'est-ce que je disais,
on est dans du gros sans soufre, là.
Ouais, ici, là, vraiment, ouais. Donc, ça n'en est pas moins intéressant, attention, hein, mais. Bref, moi j'ai des vins à la carte où il y a un petit peu de sulfite et...
Tu comprends ça, Philippe, toi?
Ah ouais, complètement.
Et je le vis bien. Mais d'ailleurs, depuis le début, tu vinifies sans soufre?
Non, la première année, on a mis un peu de sulfite.
Parce qu'attention...
On a fait des essais, en fait. Et puis, moi je trouvais que le vin était différent, du coup, était un peu plus chiant, entre guillemets. Et puis du coup, maintenant, je ne mets plus de sulfite du tout.
Parce qu'on parle du travail à la vigne, mais... ne pas mettre de soufre. Donc là, on se passe après vendange dans le chai, quand on vinifie les vins, ou alors vinifier la vendange ou vinifier derrière, ne pas mettre de soufre. Là, c'est même pas que c'est plus de boulot, c'est que c'est une
compliqué.
Hygiène irréprochable, c'est, on est au degré près sur les températures des cuves, c'est faire du sans-filet à 30 mètres de haut, enfin, c'est très compliqué, quoi.
C'est ça.
Donc il faut quand même, Philippe là, il est cool avec son blanc là qui se goûte bien, sauf que c'est pas évident du tout.
C'est un travail de cinglé.
Ouais, c'est un travail de cinglé.
Non, mais c'est pas forcément un travail de cinglé, je pense pas. Je pense aussi qu'il y a des vins qui s'y prêtent plus que d'autres. Chez nous, je pense qu'il y a des cépages qui s'y prêtent plus que d'autres aussi. On le sait, il y a des cépages compliqués qui ont tendance à avoir des défauts. Par exemple, les goûts de souris dont parle Théo. Ben moi, ça m'arrive aussi d'en avoir, mais il faut garder le vin en bouteille dans la cave, pas le vendre tout simplement. Puis moi, je vends les vins quand ils sont prêts à être vendus, mais il faut pouvoir le faire. Tout le monde ne peut pas le faire.
Bah, des fois, alors quand ils ne peuvent pas le faire, on coupe la poire en deux. Ils le font un peu et nous, on le fait un peu. Ça permet de décaler les mises en vente des vins d'un an ou de 8 mois, un an. Et là, c'est cool, quoi.
C'est comme ça aussi que toi, en tant que restaurateur, tu soutiens un vigneron dont
c'est comme ça que je pense que
tu crois.
C'est comme ça que nous autres restaurateurs, et je pèse mes mots, je pense qu'on a une responsabilité là-dedans, parce qu'aujourd'hui, les gens goûtent. Là, il y a du monde, là, à Grande Contrôle, c'est cool et tout. Sauf que les tracteurs des vins sans sulfite ou du vin nature en général vont dire que ça sent le renard, que ça pue, que c'est pas bon et que c'est des vins remplis de défauts. Nous autres restaurateurs, on a une responsabilité pour démontrer le contraire. Et pour montrer que non, c'est pas ça en fait. La Romanée Conti, c'est nature sur certains. Enfin, c'est un faux. J'aimerais que ce soit un faux débat.
La Bourgogne est intrinsèquement allaitée à ses natures.
Les grands Bordeaux avant étaient nature
bien
aussi.
Bien sûr.
Avant qu'on invente tous ces produits.
Sans la chimisation de l'industrie.
Voilà, exactement. Donc il faut les sulfites, c'est bien d'en parler, mais pas trop quoi. Moi je pense que c'est un faux débat. Encore une fois, faut ramener ça.
Arrêtons là alors.
Arrêtons l'émission.
Faut ramener ça au goût du vin et à ce qui se passe dans les vignes et à la conscience de tout le monde.
On va surtout regoûter le vin qu'on a vu en début d'émission, ton Picpoul. Ta pique poule, je sais pas comment tu dis.
Ton
a cuvée.
Mais c'est une poule alors.
C'est une poule.
Pique poule.
Et c'est de la biodynamite.
J'aime bien les jeux de mots que vous faites. Et ça,
ils sont pas toujours très heureux.
Oui, il y a souvent des choses un peu foireuses. Mais il y a une bonne DA plus que dans les 20 ans.
Ouais, ils ont le calembour facile, tu veux
dire. Ouais, c'est ça.
Ouais, j'ai. Ouais. C'est vrai, non ?
C'est le côté... ah oui,
c'est les hippies, ça. C'est les hippies.
C'est le côté gaillard, bon buveur, blagouneur.
Aitor, pourquoi il te plaît ce vin ?
On a désacralisé un peu le...
Ouais, c'est désacralisé, voilà, c'est ça. Ouais.
On a enlevé les portails sur les étiquettes de vin et c'est un peu...
Aitor, pourquoi tu aimes ce vin-là ? 100% Picpoul, c'est ça ?
Ouais, c'est un vin chaleureux qui met la banane, reviens-y à mort. Un peu de rondeur, un peu de chaleur, picotti-picota.
J'adore ça.
C'est ça que tu as voulu faire, Philippe ?
Là, en fait, moi, j'essaye plutôt que de la rondeur, j'essaie d'avoir quelque chose d'assez minéral et avec de la tension, avec quand même un équilibre acide. Parce que chez nous, c'est un peu le défi dans le sud de faire des blancs qui ne soient pas trop alcooleux.
De plus en plus.
Et qui soient buvables et qu'on ait plaisir à boire. Donc voilà, c'est ça.
Ce serait le défaut principal des vins du sud ? C'est d'être trop alcooleux ou trop quoi ?
Non, je pense que ça a été le défaut à une époque des blancs. C'est vrai qu'on n'est pas un pays de blancs à la base. Mais personnellement, moi, je me régale de faire des blancs de plus en plus. Et...
Non, mais il y a une réalité, c'est vrai, quoi. Le réchauffement climatique, vous le voyez tous les
jours.
Ah
oui, on le voit bien, le réchauffement climatique.
Voilà,
quand même.
Tiens, Philippe, une question, parce que j'ai parlé avec une sommelière, la sommelière de chez Yamcha il n'y a pas longtemps, qui m'a dit que les vendanges 2018 étaient exceptionnelles.
Yamcha, c'est un restaurant dans le 11e, à Paris.
Oui, mais elle parlait des vendanges.
Ils sont pas dans le 11e.
Dans quelle région ?
Alors elle me disait dans toute la France, elle me disait qu'elle avait parlé avec des vignerons du nord au sud, d'est en ouest.
Dans le sud, il y a beaucoup de gens qui ont perdu complètement leur récolte sur certaines parcelles parce qu'on a eu une très très grosse pression de mildiou. Et puis il y a des gens qui ont réussi à sauver la récolte, mais il y a quand même un gros manque sur 2018.
Ouais, il y a des régions où c'est carrément millésime du siècle, on entend ces mots-là, et il y a des régions où c'est...
Dans la Loire, je crois que c'est...
Loire, je pense que dans les 2-3 ans à venir,
Champagne, Paris,
Jura, on va entendre parler beaucoup des vins du Jura, on entend déjà beaucoup parler.
Mais bon, c'est
des
gens qui ont vécu des années difficiles,
très
donc
difficile,
c'est quand même bien qu'ils aient un beau millésime.
Évidemment, bien sûr.
De temps en temps.
Chez vous, ça a été chaud, hein, ça a été difficile.
Ouais. Théo, les vins de Philippe sont à ta carte, certains.
Oui.
Qu'est-ce qui te plaît dans son travail et plus largement comment tu équilibres une carte ? Je sais que c'est le travail d'une vie, c'est un boulot de fou. Il faudrait 2 heures d'émission pour en parler.
On peut faire 2 heures d'émission.
Ouais, allons-y.
D'accord, ok. Non, les vins de Philippe, je les aime parce que encore une fois, je reviens au goût, mais bon voilà, c'est une carte des vins, on l'a construite par, que ce soit chez Septime, la cave, Clamato ou du Nil, les terrains de jeu sont très différents. Moi, toujours, ce qui gouverne, c'est le goût. Et l'éthique avec laquelle ils peuvent travailler. Bon, bah là, dans le blanc qu'on boit, enfin, je sais plus si c'est Sylvie Augereau qui disait ça, mais quand on boit des vins comme ça, on des vins nature, encore une fois, la définition, j'aime pas dire ça, mais bon, bref. Quand on boit des vins nature, on a du mal à revenir à autre chose derrière, quoi. Voilà, c'est, ça y est, quoi. Le tariqué en terrasse, c'est fini,
c'est
quoi.
Fini.
C'est fini, c'est pas possible.
Pour des raisons de goût et de morale, les deux sont liés, en fait.
Bon, voilà. Donc, c'est ça. Ça c'est fait et depuis moi j'ai découvert ça dans les années 2000 on va dire et faut se rappeler qu'en 2000 quand on buvait des Tubeuf ou des Dariribo les vins étaient super en vrac et qu'on aimait ça quand même hein. Donc aujourd'hui on est un peu plus difficile
on vieillit
non mais vous progressez aussi les gars franchement
et Dariribo et Tubeuf ils sont beaucoup moins en vrac maintenant.
Et Dariribo et Tubeuf sont moins en vrac maintenant. Alors, non, mais c'est vrai, non, moins en vrac.
Hein. Dariribo, moi, c'est un grand domaine, c'est
mais
que j'adore.
C'est un domaine c'est fabuleux. Mais aujourd'hui, tu vois un Ermitage de Dariribo. Bon, c'est pas pareil que quand tu goûtais des printemps dans les années. Ouais. Donc voilà. Je pense que tout le monde a progressé. Et c'est tant mieux. Mais pour en revenir à la carte. C'est un peu une question d'équilibre. Nous, on a la chance d'avoir des terrains de jeu très très différents. Donc, chez Clamato, ça va être une carte des vins un peu plus avant-gardiste, un peu audacieuse, un peu pêchu. C'est un restaurant de poissons, de fruits de mer. Donc, il y a majorité de blancs, de vins orange, les vins blancs de macération, donc vinifiés comme des rouges. Et des rouges légers, des macérations carboniques, des gamets, des pinots, enfin un peu au nord de Lyon. Donc, désolé Philippe.
Je pense qu'on va devoir se faire mais, un petit point sémantique macération là.
Non, ouais, on peut faire après, c'est marrant. Mais donc voilà pour Clamato. La cave avec des prix un petit peu plus accessibles, des canons un peu plus de copains, de soif, etc. Septime, la maison mère avec. des canons un peu plus précieux, des choses un peu plus rares, etc. Et du Nil, là, c'est nouveau pour nous et on essaie de faire une carte un peu plus réconfortante, avec les grands noms justement du vin qu'on fait ça. Voilà. Les
du Nil, c'est la chambre d'hôte hôtel dans le Perche, à côté de Rémalard, aux portes du parc naturel du Perche.
Exactement, qu'on a ouvert il y a sept mois maintenant. Et on a une petite équipe qui bosse super bien là-bas et où on a envie de faire ça. Gramnon, Tubeuf, Daré Ribot, des noms plus ou moins, des gens qu'on a des fois peut-être un peu oubliés dans les salons et qui ont fait un boulot monstrueux, évidemment les Foyards, la Pierre et compagnie, mais qu'on est content toujours de retrouver sur une carte à la campagne, un peu comme dans une un peu maison de campagne où on serait réconforté par ces vins-là.
Bon, moi Théo, tu me parles de Clamato, de Septime. Évidemment, ça m'ouvre un peu l'appétit, j'imagine que vous aussi.
Moi, je crève de faim.
Ouais, et c'est pas tout, parce qu'on est quand même à Jeun. Le petit déjeuner est déjà loin. Donc, on retrouve Mathilde qui a la lourde charge de nous nourrir à chaque émission.
On va préparer une pizza. Je te vais expliquer la préparation de toutes ces étapes, en fait.
Donc là, j'imagine qu'on va commencer par la pâte.
On commence pour la pâte. Mais avant de commencer pour la pâte, je voudrais expliquer que la base pour faire une bonne pizza, c'est une bonne farine. En fait, nous utilisons de la farine qui vient de l'Italie.
Où ça en Italie ?
La Naples, en fait. Ça s'appelle farine Caputo. C'est une bonne farine très utilisée en Italie. Et je voudrais commencer pour expliquer que chaque farine a sa propriété à respecter.
Donc, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la farine que nous utilisons, c'est une farine qui a besoin de 48 heures de repos.
48 heures dans le frigo ?
Dans le frigo et à température ambiance.
Alors en fait, Santo, si je comprends bien, vous, le fait que vous fassiez reposer votre pâte comme ça, 48 heures au frigo, puis après à température ambiante, ça la rend hyper digeste, c'est ça ?
Exactement. La pizza que je vous présente aujourd'hui, c'est une pizza blanche. Et les produits que nous on va utiliser, c'est de la fior di latte, de la mozzarella de bufala fumée.
Et dans quelle région d'Italie, la fior di latte ?
La Campania. La Campania, en fait, elle est très fameuse pour les fromages. La scamorza, la fior di latte, tous les fromages que normalement tu vas retrouver sur les pizzas. Et on va ajouter dessus notre pizza du speck. On va mettre notre pizza sous la pelle, direction four.
Et donc là, tu retournes la pizza dans le four, tu la fais tourner sur elle-même pour que la cuisson soit homogène, c'est ça ?
Exactement, tu as bien compris Mathilde. Vous venez travailler chez nous ?
C'est payé combien ?
Ah, je sais pas, ça te parle avec les patrons. Alors, notre pizza elle est déjà prête. On va couper notre pizza en 8.
Et qu'est-ce qu'on boit avec cette pizza ? On boit du pain ?
Mais avec cette pizza-là, la pizza, il y a de la viande, il y a du bon fromage fumé.
Ah, ou du blanc.
Moi, franchement, tu dois accompagner avec un rosé ou un vin rouge.
Quel type de rouge ?
Mais je pense à rouge fruité, franchement.
Rouge fruité.
Mathilde, la pizza, elle est passée où ? En attendant que tu nous les apportes, je ne sais pas où tu es, Mathilde, quelque part dans les allées de Grand Contrôle. Je pense qu'on a le temps d'écouter un peu de son. Tu nous as choisi, évidemment, quelque chose qui nous vient évidemment d'Italie pour aller avec la pizza. Théo, c'est quoi ?
Ouais, c'est un tube interplanétaire des années 70. C'est Ancora tu de Lucio Battisti.
Waouh.
Ancora tu. Sorprende, lo sai, ancora tu, ma non dovevamo vederci più, e come stai? Domanda inutile, stai come me, e ci scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so, cosa tu vuoi sapere?
sono ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.
Théo, ai-je vraiment besoin de te demander pourquoi tu as choisi ce morceau? Pendant qu'il se sert un verre à boire.
Mais non, mais on n'a pas goûté ça, les baconnelles de Gérard Marulin, on n'a pas goûté encore.
Et ça va bien avec Battisti?
Battisti, ouais, moi j'ai une histoire avec l'Italie un petit peu. Avant d'ouvrir Septime, j'ai une histoire avec l'Italie. Et Battisti, c'est un peu la synthèse de tout ça là. C'est un petit peu, je sais pas, non, ça parle
c'est
de
balade,
soi-même,
c'est la joie,
balade,
c'est le plaisir, c'est
ouais, c'est ça, c'est les boire des bons vins, manger des pâtes, et faire l'amour quoi.
C'est
non,
ça.
C'est un peu ça.
Et un super son. Non, Mathilde, tu vas pas nous dire le contraire.
Ouais. Bah non, salut Mathilde.
Salut les amis.
On t'attendait un peu comme le Messi.
Et je vois que vous n'avez pas attendu d'avoir les pizzas pour siffler des verres de rouge.
Et
les conseils de Santo, vous avez entendu peut-être avant, qui conseillait justement de boire du rouge avec la pizza. Cette pizza à peine.
On peut boire n'importe quoi, Théo, avec la pizza.
Ouais, l'accord Mévin, vu comme un diktat, je suis pas très.
Ouais.
À l'aise avec ça, donc c'est vraiment ce qu'on a envie de boire. Par contre, il faut vraiment penser à ce qu'on a envie de boire. Là, c'est super bon avec les vins de Gérard. Je pense que ça pourrait être bien avec plein de choses, mais ça, c'est très bon.
Mathilde, tu nous parles un peu de ce qu'on est en train de manger.
Ce
qui a pratiquement disparu de l'assiette, il n'y a plus rien déjà.
Elle s'appelle Pensante. Je ne sais pas si vous avez entendu.
Si, si.
Oui.
C'est une pizza parisienne, c'est-à-dire, en gros, Santo m'expliquait qu'à Paris, les gens n'aiment pas manger la pizza avec le speck qui aurait trop au fond... Ils n'aiment pas manger la pizza avec le speck trop cru, ils préfèrent que le speck soit un petit peu fondu, du coup, ils ont adapté leur pizza, ils la font pas comme à Naples, ils la font version parisienne, quoi. Et donc celle-là, c'est la plus parisienne des pizzas de chez Faggio. Faggio que vous connaissez tous, n'est-ce pas?
Non.
Faggio, maison mère, boulevard de Rochechouart, dans le 9e arrondissement à Paris.
Mm-hmm. Les meilleures pizzas...
Meilleure pizza du 9e, je pense.
Ouais, elles sont top.
Meilleure farine, meilleur four, meilleure pizzaiole.
Oui, farine Caputo, comme dans ton son.
Qui vient de Naples. Et la pizza, la maison mère Faggio, il y a aussi Pacchio, que vous connaissez, qui n'existe plus, qui est devenu Faggio Osteria. Il y a aussi Faggio Salumeria.
Oui, il a toute la rue.
Voilà, C'est Fabien
Lombardi.
C'est
un peu comme Théo, rue de Charonne, quoi.
Exactement.
Ça, Fabien Lombardi, il a toute la rue du Faubourg.
Non, mais c'est cool. Il y a des super canons. Il y a des super canons à boire. Ah, ouais. Et il vient d'ouvrir un nouveau truc, non?
Oui.
Faggio Salomeria. Une cave à vin, ouais. En fait, c'est une épicerie fine, ouais, avec, comme disait la critique du fooding, justement, bourrée d'italianité de luxe. Ouais, bref, ce garçon en a sous le capot, et chaque adresse est un carton à chaque fois.
Et il a un stand de pizza, Faggio à Grande Contrôle.
Exactement, ouvert du mardi au dimanche.
C'est super. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous comprenez quelqu'un qui vous dit qu'il n'aime pas les vins nature? Et est-ce que ça veut encore dire quelque chose?
Ça, c'est pour moi, ça.
Ouais.
C'est pour qui veut, hein.
Non, mais ouais, parce que nous, ça nous... Enfin, alors, il y a énormément de travail qui est fait depuis longtemps dans les bistrots à Paris ou ailleurs. Là, on parle de Grande Contrôle, de notre niche parisienne et encore plus de Septime, niche du 11e, où on fait absolument tout ce qu'on veut sur le vin. Non, nous, ça nous arrive plus, ça. Parce qu'en fait, on a... J'en sais rien. Les gens ont une telle garantie en s'asseyant chez nous. On a gagné en 8 ans une crédibilité, une légitimité là-dessus. Et du coup, franchement, ça n'arrive plus.
Non, enfin, les gens qui viennent chez vous, ils sont déjà acquis à la cause.
C'est le vrai travail du sommelier. C'est ça, un
bon
sommelier.
On bosse dur.
Qui va pas déplaire et qui...
Non, mais tu sais, il y a ce truc un peu du 11e ou de Paris, un peu du Paris, le vin nature sont taxés un peu des vins pour les bobos, etc. Et en fait, nous, c'est ce qu'on combat tous les jours. C'est qu'en fait, il faut arrêter cette espèce de fausse image de trucs, de produits alternatifs. C'est du vin, quoi. Mmh. C'est du vin, et c'est du vin comme il doit être fait, quoi. C'est la chimie n'est plus possible, le goût du vin, il faut l'avoir dans les verres, et on préfère avoir un vin vivant, encore une fois.
Pas forcément plus cher, en plus.
Pas du tout. Mythe.
Mythe total.
Alors, la villageoise, pour le coup, c'est vraiment pas cher, mais... Donc
on a lancé ce quiz.
Voilà, ça
a plu, la villageoise.
Voilà, mais bon... Non, mais... faut pas oublier le boulot qui est fait depuis tout ce temps, quoi.
Je pense qu'il faut qu'on fasse un mini point sémantique. On a reçu une question d'un auditeur, ouais. Johan,
oui.
Qui nous demande de l'aider à tirer au clair la différence sémantique et de sens entre bio, biodynamie, nature.
Ouais.
Un vin bio n'est pas forcément nature.
Non.
Un vin nature
est-il forcément
bio? Un vin nature est-il bio sans agrément, sans certification? C'est ça un peu les contours de, ouais, au moins les appellations.
C'est le merdier.
C'est
le merdier, mais c'est pas la faute des vins nature, hein, que ce soit le merdier. Hein. C'est plutôt la faute des commissions d'agrément.
Le vin bio aujourd'hui, avant il n'y avait pas d'appellation vin bio. Il y avait une appellation vin issu de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, il y a un vin bio. On peut marquer vin bio.
Qui est certifié AB. Il porte le
label
AB.
Mais les règles qui régissent le vin bio, c'est on est autorisé à mettre un tas de produits quand même dans le vin bio. Donc il faut que les raisins soient selon les critères bio, de l'agriculture bio. Mais après, en cave, on peut quand même utiliser quasiment les mêmes produits que pour les vins non bio.
Quels produits?
Tous les produits œnologiques. Il y en a un certain nombre.
Des dizaines.
La liste est très longue.
Et donc, par ailleurs, un vin bio peut être issu un peu de l'agriculture intensive aussi. Un vin bio, c'est pas forcément un vin qui reste.
Il peut y avoir une agriculture bio intensive, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais après un peu.
Des tomates bio espagnoles produites n'importe comment, ça existe aussi.
Oui, exactement. Oui, parce qu'après, il y a un cahier des charges, il suffit de respecter le cahier des charges et puis on rentre dans l'appellation bio.
Mais le problème, c'est que l'appellation bio s'est élargie au point d'accepter un tas de produits chimiques qui aujourd'hui ne conviennent plus à des gens qui font du.
Ouais, je ne sais pas si ça s'est élargi, c'est-à-dire que quand. Je ne sais pas qui a décidé tout ça.
L'Union européenne, je crois.
Avant, comme je vous disais, il y avait les vins issus de l'agriculture bio. Maintenant, c'est les vins bio. Et il y a des gens qui ont créé ce cahier des charges. Et voilà. Aujourd'hui, on en est là.
Et nature versus biodynamie?
Biodynamie, c'est inspiré de Rudolf Steiner. C'est un peu l'homéopathie pour les plantes.
C'était qui ce bon monsieur Steiner?
Je sais pas, je l'ai pas connu, moi.
C'était quand même il y a un bout de temps, je sens.
Non, mais c'était il y a un moment, mais surtout, en fait, aujourd'hui, les préceptes, et encore une fois, tout le monde se différencie un petit peu, hein, nature, biodynamie, bio, etc., tout ça se mélange, on n'y comprend plus rien. Chacun... Bon, il faut goûter, il faut voir ce qui plaît. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le travail, il est à à faire plus dans la masse. Je veux dire, il faut s'adresser, il faut choisir son combat. Le bio, c'est pas suffisant, mais c'est déjà ça.
Au moins pour la santé, c'est déjà ça.
Voilà.
Tendanciellement, c'est ce qu'il faut.
Il faut viser. Et au niveau agricole, en tout cas, il y a beaucoup moins de pollution dans les sols, etc. En bio, ça, c'est une certitude.
La biodynamie, c'est des préceptes que les anciens connaissaient déjà, sans mettre un mot dessus et sans enterrer les cornes avec la bouche dedans et faire des préparats, etc., etc. Il y avait des choses qui tombaient sous le bon sens et les écrits des anciens transmettaient déjà bon nombre de préceptes de la biodynamie. Tout ça n'est qu'histoire. Mais
quand tu dis que c'est le merdier, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit plus le merdier, pour que ce soit plus simple ? Il faut légiférer encore ? Il faut faire quoi en fait ? Il faut faire une campagne de sensibilisation ? C'est quoi la solution pour sortir du merdier ?
Encore une fois, j'en reviens à la responsabilité de chacun, sans vouloir employer les grands mots, hein, mais voilà.
Consommateur-acteur, quoi.
Alors peut-être qu'au même titre que les vins nature acceptent une espèce de pluralité, accepter qu'il y ait une pluralité des méthodes et des manières vers un objectif commun.
Mais quand tu ne comprends pas les méthodes et les manières, t'es un peu mal barré.
C'est vrai que je pense que d'un point de vue didactique, il y a un manque. Par exemple, pourquoi est-ce que les étiquettes ne pourraient pas indiquer clairement le taux de sulfite qu'il y a dans une bouteille ?
Oui, il y en a même qui le mettent.
Et si c'était systématique, par exemple, on saurait. Voilà. Ce n'est pas une obligation. Je pense qu'il y a quelque chose à faire du côté de l'étiquetage, sans doute, des bouteilles de vin. Ouais, pour rendre la chose plus pédagogique, pour que ce soit plus lisible.
Probablement.
Mais en attendant, boire du bon pinard, c'est quand même l'objectif. Hein.
Oui, le goût, quand même,
le goût prime.
C'est un bon indicateur, le goût, quand même.
Oui.
Les garçons, j'ai une question. Qui sont pour vous les héros du vin nature ?
Waouh !
Oui, il y en a beaucoup. Hein.
Tu veux commencer ?
Ceux qui ont ouvert la voie, ceux qui vous
inspirent. Les héros du vin nature.
Oui, ceux qui vous inspirent.
Moi, je suis à l'ancienne, moi, non, mais j'irai sur les vieux, quoi. Aujourd'hui, il y en a plein, mais les héros, franchement, les héros, c'est quoi ? C'est Jules Chauvet.
C'est Marcel Lapierre.
Marcel Lapierre, Jean Foyard, le Beaujolais, beaucoup.
Chacun nos héros. Hein. Moi, j'ai mes héros aussi. Les gens qui ont commencé à faire des super vins chez nous. Axel Prüfer, Eric Pfefferling. C'est des gens qui m'ont inspiré, quoi.
Ah ouais ? C'est la génération. Attends, ils sont vachement plus jeunes quand même.
Oui, ils sont jeunes, mais de moins en moins. Hein.
Après, il y a des mecs qui ont vachement œuvré et qui ont vachement bossé, qui font partie du paysage encore aujourd'hui. Des gens comme François Morel.
Je tiens à la main un livre que tu m'as offert il y a quelques temps, Théo, qui s'appelle Le vin au naturel. Un jour, je disais à Théo, mais en fait, j'y comprends rien. Il va falloir que tu m'aides. S'il te plaît, offre-moi un livre qui peut me servir à comprendre. Il m'a dit, il y a un ouvrage à lire. C'est Le vin au naturel de François Morel, édité au rouge et au blanc. Alors, c'était qui François Morel ? C'est qui ?
François Morel, c'est un personnage du vin naturel qui a œuvré pour la cause depuis hyper longtemps, surtout qui a été rédacteur en chef du Rouge et le Blanc,
revue de référence. Quoi.
La revue de référence qui s'est toujours retrouvée sans publicité, sans sponsor et qui a toujours œuvré dans le bon sens. François, c'est délirant. Il était encore il y a 15 jours chez Septime. Je lui faisais goûter un vin, donc une macération de Sicile, de Giusto Occhipinti, longue d'Ariana, de chez Cos, C-O-S, là, le domaine, des amphores en macération.
Attends, Théo, je te coupe, on vient de me dire que François Morel écoute l'émission en direct.
Oh merde. Donc François...
Je crois que c'est le François Morel de France Inter, hein, ça n'a rien à voir.
Ah, c'est François...
C'est le François Morel dont tu parles.
Bonsoir François.
Non, alors il est.
Dis pas trop de bêtises.
Il est peut-être un peu moins marrant que le François Morel de France Inter, mais
c'est parce qu'on lui demande, c'est pas grave.
C'est parce qu'on lui demande. C'est une icône. Non, franchement, c'est un mec complètement incroyable. Il y a 15 jours encore, il était au restaurant et.
Il était en Sicile quelques jours avant, tu nous disais.
Non, il était au restaurant chez Septime, mais quand je lui fais goûter un vin donc du domaine Cos en Sicile, une macération d'aujourd'hui, nous autres. Moi, je suis né en 81. Il me raconte qu'en fait. Oui, il connaît bien Giusto parce qu'il y a 30 ans, il était en Sicile et qu'il goûtait les vins de Giusto et qu'à l'époque, Giusto vinifiait à la bordelaise parce que c'était ce qu'il fallait faire, parce que c'était ça l'avenir, que c'était ça la modernité, le futur du vin. Donc à l'époque, Giusto, aujourd'hui, il vinifie en amphore, il fait des macérations, il fait les vins les plus... il fait des très 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 chouettes vins naturels.
Macération, il faut nous expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit.
Bah Philippe, la macération, t'en fais une, toi, avec l'orange jeune.
C'est d'avoir des raisins, des peaux, enfin les raisins avec les peaux qui trempent dans du jus, en fait, dans le mou. Le mou de raisin qui est en train de fermenter. Mm-hmm. Donc à partir du moment où on a du liquide et du solide qui sont en contact, c'est une macération.
Et quel est l'intérêt de la macération?
A priori, c'est d'extraire de la matière, de la couleur. Par exemple, il faut savoir que le raisin, c'est des raisins noirs. Pour les vins rouges, par exemple, c'est des raisins noirs à jus blanc. Les jus sont blancs, en fin de compte. Donc la couleur vient de la peau. Et donc pour faire du rouge, il faut extraire un peu et macérer. Pour obtenir.
Et un vin orange, c'est également un vin de macération.
Ça, c'est super chouette, hein, pour ouais. pour les néophytes comme pour les plus. Les plus
expérimentés.
Il faut goûter on a la chance aujourd'hui de pouvoir goûter des vins de Géorgie. Le berceau du vin vient là, Géorgie, Iran, etc. On fait des vins depuis millénaires, passés à travers les modes et passés sous la houlette de l'URSS à l'époque, etc. Certains vignerons ont toujours vinifié de manière naturelle, sans sulfite ajouté, dans des amphores enterrées, et ont toujours fait des vins blanc ou rouge, mais macéré. Donc on laisse les peaux, on presse pas direct, mais on laisse les peaux macérer avec le jus. On goûte l'histoire, quoi. Quand on goûte des vins blancs macérés de Géorgie, c'est époustouflant. Un grain, un truc complètement phénoménal. Donc c'est aujourd'hui, on a la chance de pouvoir goûter ça.
On connaissait pas avant, c'est vrai.
On connaissait pas avant.
On n'y avait pas accès.
Parce qu'on n'y avait pas accès.
Il y avait
un
embargo de l'URSS, je ne vais pas dire des conneries, rentrer dans l'histoire, les détails de l'histoire, mais les vins ne pouvaient pas nous arriver. Et aujourd'hui, par le travail de ces vignerons, de cette nouvelle génération, certains vignerons importateurs comme Thierry Puzla qui arrivent à nous ramener les vins. Et la culture géorgienne, on goûte des trucs, mais hallucinants.
Philippe, toi, qui est-ce qui t'a ouvert la voie et ouvert les yeux? Tu as un héros du vin nature?
C'est un copain qui s'appelle Nicolas Monestier, qui est sommelier et qui m'a fait découvrir les vins nature à l'époque où moi je faisais du vin, je travaillais pour des vignerons et je connaissais pas les vins nature et il m'a ouvert sur tout ce monde. Et à partir de là, j'ai voulu en faire puisque c'était mon métier.
Tu t'es installé en 2011?
2012.
2012. Mmh.
Et tu es de là-bas à l'origine, toi? Tu es de ce coin-là?
Je suis de Montpellier, ouais.
Ah, ça me fait plaisir, ça.
Montpellier Connection.
Ouais, on est voisins.
Qu'est-ce que tu trouves le plus ardu, le plus difficile au quotidien dans ton métier?
Au quotidien, il n'y a pas grand-chose de difficile. On a... C'est peut-être un peu la pression qu'on peut avoir à la veille des vendanges. On travaille un peu sans filet, comme disait Théo. Et...
Parfois, tu n'as plus de bière dans le frigo. Tu as du vin dans la cave, mais tu n'as plus de bière dans le frigo aussi.
Oui, ça arrive.
Ouais, ça arrive. C'est chiant.
Une journée, c'est quoi ton quotidien? Tu te lèves le matin, tu fais
là,
quoi?
Mon quotidien, c'est de venir à Paris, d'aller dans des mauvais restos comme celui de Théo.
Dans des salons horribles comme la Gouléance.
C'est pas tous les jours
radio,
facile.
Ils sont en vacances quand ils viennent ici. C'est cool.
Ça, c'est une partie de mon quotidien. Après, c'est être là, pas partir trop longtemps justement pour surveiller tout le temps là pour les vins. Voilà.
C'est pas une vie de bête de somme?
Non, ça va.
Transition.
Transition. On va écouter Beast of Burden des Stones, bête de somme, quoi.
Oh,
Ouais, en fait, là, je suis en train de regarder par la fenêtre du studio et je me fais un peu la remarque, c'est quand même un salon quand même très masculin. Même si ça évolue doucement, il y a Nadia Charmasson, Saskia Van der Host, moi qui pensais, enfin nous qui pensions que le vin nature était féministe.
Eh bien,
ça vient quand même. Il y en a quand même de plus en plus et je crois que toutes celles dont on a parlé pendant la petite chanson là.
Lesquelles?
Mylène Bru, Marlène Soria, Julie Balani.
Julie Balani, quoi.
C'est qui Julie Balani? Noël
Arroyo. Non, non, mais enfin, ouais, Alice de l'Octavin. Ou alors, il y a celle dont on oublie de parler, en fait. Où, comme dans tous les milieux, en fait, on a toujours mis le nom du vigneron en avant. Et en fait, sa femme était là et elle bossait pareil sur le domaine.
Aussi.
Et le domaine n'aurait jamais été comme
t'as
ça.
T'as un exemple précis en tête?
Ouais, j'en sais rien, moi. Béatrice.
Mais il me semble que moi, il y en a beaucoup, en tout cas, dans toutes ces communautés.
Agnès Moss.
Qui amène beaucoup de finesse dans le vin.
Agnès Moss. On connaît René, mais on connaît pas Agnès, c'est ça l'idée?
Ouais, alors tu sais
les
quoi.
Les Carrojet sont là tous les deux, ils sont en couple depuis toujours, ils bossent ensemble la vie depuis
ouais,
toujours.
Ouais, en fait, on parle, voilà, les femmes sont là, en fait, je pense que c'est comme partout, et voilà, elles étaient
là, mais invisibles.
Elles sont là, mais invisibles.
Là, mais invisibles,
bien sûr, mais il n'y aurait jamais un domaine qui aurait vu le jour s'il n'y avait pas à tenir. Le repas des vendangeurs, la famille, le tout le côté commercial. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, mais je veux pas caricaturer parce qu'il y a bon.
Mais on est sans doute dans l'étape d'après, c'est-à-dire le moment où c'est une femme qui tient une vigne, qui a un rang de vigne, qui fait son vin, qui tient ses cuves, qui les vend à son nom. C'est ce moment-là et peut-être que le vin nature.
Et là, on n'y est pas encore. Pas tout à fait.
C'est en transition, mais il y a beaucoup
à faire. On y est quand même.
Si,
après, c'est quand même un métier, il faut le dire, qui est dur physiquement. Je comprends un petit peu.
Mais les femmes peuvent résister à ça, non? Tu crois
pas? Oui, elles résistent, mais bon, même pour les hommes, c'est pas facile. Alors.
Non, mais il y a un truc. Oui, alors attends. Voilà, ça va être long, là. On reprend une heure. On peut reprendre une heure?
Ah non,
on
a une minute. On a une minute, là.
Non, laissons tomber. Mais bref, toute la technologie qui a pu être mise. Et la facilité de travail qui a pu être améliorée en cuisine, par exemple, dans les restaurants, etc., l'est pas forcément parce qu'il y a un travail très, très manuel et très contraignant à la vigne. Voilà.
Surtout en nature.
Pour la faire courte.
On a bien compris que c'était beaucoup plus de boulot, en fait.
Ouais, non, c'est pas allumer le tracteur pour qu'il vendange tout seul. Bon, bref. Mais il y a plein de femmes qui font un truc formidable.
Aitor, tu t'es fait un copain qui nous a apporté des huîtres.
Écoute, là, sur comme le... ça, soudainement, le domaine du Haut-Planty nous a apporté une jolie petite bouteille de Guinevan, son petit blanc avec
c'est
des
quoi,
huîtres.
C'est quoi, c'est un muscadet?
Ouais, c'est un muscadet du pays nantais.
Théo, tu le goûtes?
Avec ses huîtres.
Ce sont les nouveaux muscadets très bons et pas chers.
Ouais, c'est pas.
Aux nouveaux muscadets, pas cher et pas bon d'autrefois.
Mais alors, par exemple, si on veut acheter un cubit de vin blanc à, disons, 25 euros les 5 litres, très, extrêmement buvable, et ben, domaine du Haut-Planty, c'est parfait.
Ah, super. En attendant que Théo, tu goûtes le vin. Ouais. Pour finir, on a traditionnellement une question qu'on pose à nos invités. Attention, c'est pas simple, c'est chaud. Interdiction de prononcer les mots amour de la vigne et transmission. Et la question est. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre métier? Philippe. On n'a pas le droit de dire amour de la vigne ni transmission.
C'est chaud, ça. C'est compliqué quand même.
Il nous reste 10 secondes.
Qu'est-ce qui compte le plus dans mon métier? Bah, c'est d'arriver à faire ce qui me plaît à la fin, que le vin me plaise et que voilà. C'est ça qui compte le plus.
Et Théo?
Moi, c'est la bienveillance.
Ah, voilà.
Parfait.
C'est un mot, voilà. Bienveillance.
Et ce vin, c'est bienveillant.
Il a dit Théo.
Et câlin.
C'est super. Mais muscadet, on n'en boit plus. Il faut en reboire. C'est bien le muscadet avec les huîtres. On oublie ça.
Allez. Hein. Merci à Théo et Philippe. Merci à Aitor et Mathilde Samama. Merci à Steph Godkowski, c'est l'organisateur du Salon Goléance. Merci à Mathilde Giraud et Denis Lega de Grand Contrôle de nous donner carte blanche pour cette émission. Et Pierre-Alexandre Perrin et Louis Hamelin derrière la console. Allez, venez boire un coup. Pour écouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur SoundCloud et iTunes Podcast ou sur le site grandcontrôleparis.com. Chaud !
Chaud !
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.